Merci Judith. Je propose qu'on passe directement à Selim qui en 15 minutes va nous présenter et qu'ensuite on fasse un débat parce que je pense que les questions vont s'adresser plus ou moins aux deux et qu'on va retrouver des mêmes questions qui s'adresseront aux deux. Donc, bon courage Selim pour montrer ce que les Suisses ont fait, qui à mon avis n'est pas très glorieux, mais tu nous le diras.
En sentir pas trop mal encore. Bien que je sois impressionné d'abord par la qualité de la présentation, bravo, merci. Et puis, je me rends compte aussi, et c'est la chose intéressante pour moi aujourd'hui, que finalement, la coalition nationale suisse a rencontré, évidemment relativement au contexte, relativement au référentiel culturel, relativement au niveau de développement des deux pays, etc., des perspectives similaires, des problématiques similaires dans sa manière de travailler. Alors, voilà. Oui, je vais commencer par m'excuser auprès des traducteurs pour la vitesse à laquelle je parle. Il paraît que je parle toujours très très vite dans mes présentations et Monique me fera des grands signes pour ralentir. Voilà, donc Monique m'a demandé de venir vous présenter le processus de travail sur l'examen périodique universel qui s'est déroulé en Suisse selon le point de vue de la société civile. Tant pour le premier processus en 2008, enfin pour l'examen de 2008, que pour le deuxième processus, l'examen de 2012, qui aura lieu lundi matin. Commencer par un petit historique et des chiffres clés. Alors, la coalition nationale des ONG pour le pays en Suisse a donc été créée en 2007 sur l'impulsion notamment du CODAP, d'Amnesty International, de HumanRights.ch, qui sont les trois ONG présentes dans le groupe de pilotage. C'est une coalition qui a aujourd'hui 47 membres, 47 ONG membres de notre coalition. Et cette coalition est donc l'idée par un groupe de pilotage de trois ONG dont le boulot est de coordonner le travail de la coalition. Jusque-là, nous avons pris part à trois processus différents, enfin trois élans, dirons-nous, que j'ai identifié comme étant trois processus différents. Deux drafts de rapports pour celui de 2008 et celui de 2012. Et vous verrez que les deux processus de draft ont été radicalement différents l'un de l'autre. Et le troisième processus, c'est le suivi du premier EPU, donc l'implémentation ou la mise en œuvre des recommandations que le Conseil des droits de l'homme a fait à la Suisse en 2008. Alors, le processus de draft du premier rapport s'est déroulé en cinq étapes. La première étape, évidemment, a été la création formelle de la coalition, avec une journée de discussion entre ONG pour essayer de définir quels étaient, déjà voir ce que c'est que ce mécanisme de l'EPU que personne ne connaissait à l'époque, ni la Confédération, donc ni l'État, ni la société civile voyaient vraiment où on allait en venir. On avait tous devant les yeux cette fameuse résolution 5.1 du Conseil des droits de l'homme qui créait le mécanisme, mais concrètement, personne à l'époque voyait à quoi allaient ressembler ces différents examens. Lors de cette journée, donc, nous avons créé formellement la coalition et nommé le groupe de pilotage qui est donc constitué d'Alain Bovard pour Amnesty International section Suisse, de Alex Futter pour HumanRights.ch et de moi-même pour le CODAP. La deuxième étape a été de demander à chaque membre de la coalition d'écrire un paragraphe d'une dizaine de lignes en fonction de sa ou ses sphères de compétences. Paragraphe qui, dans l'étape 3 de draft de ce processus de draft du premier rapport, a été compilé par le groupe de pilotage. L'étape 4 ayant été évidemment une consultation des membres sur la compilation qui a été faite par le groupe de pilotage, puisque nous avons dû faire un certain nombre de choix politique ou stratégique, étant donné la taille très réduite des rapports que la société civile peut se permettre de rendre au commissariat. Évidemment, un nombre de navettes incalculables entre les membres et le groupe de pilotage en termes de commentaires, de corrections, d'editing, de mise en page, de corrections orthographiques, etc., etc., etc. Et l'étape 5, évidemment, a été la publication du dit rapport envoyé au commissariat, bien entendu, envoyé à la presse, qui a malheureusement eu assez peu d'écho. C'est très difficile, en tout cas pour nous en Suisse, d'intéresser la presse à toutes ces questions-là, si ce n'est quelques organes de presse très spécialisés. Et on a aussi envoyé notre rapport à un réseau droits de l'homme large et international, en profitant des différents réseaux internationaux, des membres de la coalition, que ce soit le CODAP, Amnesty International ou encore d'autres comme l'APT, l'OMCT et compagnie, qui ont des réseaux très larges à l'international. Et on a pu faire profiter notre rapport à plein de monde. Comme vous pouvez le voir, ce processus est un processus de draft qui a été véritablement bottom-up. C'est les organisations membres qui ont fait les inputs, qui ont choisi les thèmes sur lesquels on allait travailler, qui ont rédigé, disons, à 80% le rapport, les 20% restants étant ces fameux choix politiques et stratégiques qui ont été faits par le comité de pilotage et qui ont été acceptés par la suite par les membres de la coalition. Et lors de ce processus de draft, il y avait un temps de travail de 30% qui a été dégagé par Amnesty International pour faire cette coordination-là. On avait une personne qui était rémunérée à hauteur de 30% mensuel pour s'occuper de la coordination des différents échanges, de la rédaction du rapport, disons de la compilation, et ensuite des différentes tâches de lobbying à partir de la publication du rapport jusqu'à l'examen en lui-même. Le processus de draft du deuxième rapport a été radicalement différent dans le sens où ça a été un processus de draft qui a été éminemment top-down. Et voilà pourquoi, enfin voilà comment surtout. La première étape, cette fois-ci, ça a été le choix des thématiques qui devraient apparaître dans le rapport par le groupe de pilotage. Nous sommes tombés d'accord sur une cinquantaine d'abord d'entrées et nous avons soumis ce choix aux différents membres, aux 47 membres de la coalition qui ont pu nous faire leurs commentaires, les corrections et enfin une approbation sur une liste de thèmes. Nous avons fini avec 41 entrées dans le rapport, donc c'est 41 contextualisations d'une problématique liée à un droit, à une somme de droits ou à des pratiques en matière de droits humains en Suisse. Et chaque entrée en fait propose une recommandation qui devrait être faite à la Suisse. L'étape 2, encore une fois, on est complètement dans le top-down. Le draft du rapport par le groupe du pilotage en allemand. Alors en allemand simplement parce que vous savez qu'en Suisse nous avons 4 langues officielles, 3 langues nationales et que 60% de la population parle allemand et qu'une grande majorité des ONG membres de la coalition nationale sont des ONG qui sont germanophones. C'est pour ça qu'on a choisi comme langue vernaculaire ou langue de travail l'allemand pour le draft de ce rapport. Il y a eu énormément de navettes entre les membres de la coalition et le comité de pilotage pour des commentaires, des corrections et enfin une approbation globale du rapport par les membres avant publication. Étape 3, traduction de ce document tant en anglais qu'en français. En français, parce que c'est une des langues officielles de l'ONU et que c'est quand même une langue nationale en Suisse, donc on se disait logique de pondre ce rapport en français pour le mettre à disposition de la partie francophone de la Suisse. En anglais, parce que on se rend bien compte de par l'expérience que chacun d'entre nous peut avoir de travail à l'ONU, qu'un diplomate chinois lui filer un rapport en français, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a même de temps en temps, on fait même l'effort d'aller traduire des documents en mandarin quand on a le temps, parce que ça a un impact et puis qu'ils aiment relativement bien ça. On l'avait fait pour tout le travail qu'on avait fait avec le comité de desk en 2010, mais on n'a pas eu le temps ni les ressources pour le faire cette fois. Et la dernière étape, évidemment, une dernière consultation avec les membres sur ces traductions-là, avec des corrections mineures, des wordings, enfin des choix de mots. Choix de place de virgule, de paragraphe, etc. Et enfin, publication selon le même schéma qu'en 2008, c'est-à-dire au commissariat, évidemment, envoyé largement à la presse, envoyé largement dans un réseau vaste d'ONG droits de l'homme, tant en Suisse qu'à l'international. La collaboration qu'on a pu avoir avec la Confédération helvétique, d'abord en 2008, puis en 2012. C'est assez intéressant de voir comment on a pu travailler directement avec l'administration fédérale. En 2008, la Confédération a organisé d'elle-même et toute seule dans son coin une journée de consultation avec, avec la coalition, disons avec la société civile suisse plus largement. La Confédération nous a offert une page de son rapport d'État à elle, qui fut dédiée aux conclusions de cette journée de consultation. C'est une page sur laquelle les trois plus grands axes de divergence en matière d'implémentation des droits humains en Suisse ont été mis en exergue dans le rapport d'État. Sachant que le rapport d'État est quand même le document des trois qui est le plus lu par les membres du Conseil, c'était intéressant pour nous de pouvoir y faire figurer les différentes divergences, disons les plus grandes divergences qu'on pouvait avoir avec eux. Enfin, un side event a été organisé conjointement entre nous et l'État à la veille du dialogue interactif l'année passée, où un certain nombre de représentants d'ONG internationales, d'agences onusiennes, de missions diplomatiques aussi sont venus assister pour se faire une dernière idée de ce à quoi aller, discuter le dialogue interactif du lendemain. Pour ce qui est de la collaboration avec l'État, en 2008 toujours, suite au dialogue interactif, nous avons eu une discussion à chaud une demi-heure après le dialogue avec la Confédération. Ce qui nous a permis d'échanger alors vraiment on the spot sur la manière dont s'était déroulé le dialogue, sur les différentes recommandations qui ont été formulées auprès de la Suisse, sur la manière dont chacun d'entre nous avait pu vivre ce qui s'était déroulé, histoire de débriefer un peu le truc. Nous avons eu ensuite une rencontre plus formelle suite à l'adoption du rapport de la Troïka par le groupe de travail, donc la semaine d'après, qui celle-ci a été publiée et permettait de travailler sur un document qui a été, dans lequel les recommandations étaient formulées, où le travail de wording sur la formulation dans le rapport de ces recommandations avait été fait par les différentes missions, où nous n'avons pas été en reste non plus sur le lobbying qui a été fait pour essayer de faire apparaître un certain nombre de concepts ou de mots dans ce rapport aussi. Et malheureusement, ça s'est plus ou moins arrêté là en 2008. Je reviendrai ensuite sur le follow-up de l'examen 2008, ce qu'on a eu après. Pour cette année, alors il faut savoir que l'équipe de l'administration, donc de la division sécurité humaine du département fédéral des affaires étrangères, qui est en charge de la rédaction du rapport d'État et donc du processus EPU pour la Suisse, a été complètement changée. On a eu affaire, si je n'ai pas connu la première équipe, je ne peux me baser que sur les ouï-dire de mes collègues, on a eu affaire cette fois avec une équipe qui était bien plus intéressée par le mécanisme, qu'ils comprenaient beaucoup mieux. Nous aussi, on était effectivement plus conscients du processus en lui-même et des bonnes pratiques à adopter en la matière, du moins on espère. Et surtout, on a eu un dialogue beaucoup plus franc et beaucoup plus ouvert avec l'administration cette année, enfin disons sur ce processus-là que sur le dernier. Une demi-journée de consultation des ONG a été organisée par l'État, mais conjointement avec nous. C'est-à-dire que le contenu des différentes discussions et cinq workshops qui ont été mis en place, c'était en février dernier, a été décidé conjointement avec le groupe de pilotage de la coalition. Ça a rendu la journée bien plus intéressante que la première en 2008, d'une part parce que tout le monde savait plus ou moins comment allait se dérouler le processus d'examination cette année par rapport à 2008 où personne n'en avait absolument aucune idée. Ça nous a permis d'avoir des discussions qui étaient beaucoup plus efficientes ou efficaces avec l'administration, avec les quelques représentants des cantons qui étaient présentes lors de cette journée pour faire un peu avancer le schwilblick. De nouveau, une page dans le rapport d'État a été dédiée aux conclusions de ces discussions-là. Il faut savoir qu'à l'ONU, en tout cas au Conseil des droits de l'homme, la Suisse est dans sa relation qu'elle a avec sa société civile, ainsi que la société civile suisse sont régulièrement cités en exemple pour l'excellente collaboration, travail, main dans la main, etc. qu'on peut avoir auprès d'autres pays. Ça va tellement loin que la présentation que je vous fais aujourd'hui, je l'ai fait aussi au mois de mai l'année passée devant la délégation vietnamienne, une délégation vietnamienne, lors du 10e dialogue bilatéral entre la Suisse et le Vietnam sur les droits humains. Donc cette page dans le rapport d'État qui nous a de nouveau permis de mettre en exergue dans le rapport d'État les trois plus grandes divergences qu'on peut avoir politiquement, en tout cas avec la Confédération, sur la manière dont les droits humains sont effectivement implémentés en Suisse. Dialogue interactif lundi matin, je me réjouis d'y être, enfin surtout après, parce que comment ça sera fini ça. Je crois qu'il commence à 9h et qu'il va finir à 13h et que vous devriez être pas très très loin et qu'on risque de s'y croiser, et je m'en réjouis. Suite à ça, pour l'instant, il y a une rencontre prévue avec le 31 octobre pour un débriefing entre le groupe de pilotage et la Suisse de cet examen-là. On sait que le 29 octobre, la délégation suisse est censée rencontrer la Troïka dans la perspective de pouvoir discuter de la manière dont son rapport va être construit. Nous-mêmes, nous ne désespérons pas de réussir à choper dans un coin à l'ONU la Troïka, ou en tout cas un de ses représentants, histoire de pouvoir nous aussi lui dire un petit peu deux, trois trucs. On verra si on y arrive. En tout cas, on fera le siège du serpent pour ce faire. Et ensuite, parce que pour l'instant, les discussions ne sont pas allées beaucoup plus loin avec la Suisse pour la suite du programme. Je reviendrai peut-être sur ce. Et ensuite, après vous avoir présenté la manière dont s'est déroulé le suivi du premier EPU entre 2008 et 2012. Je fais vite, j'essaye. Alors, je comprends. Non, je comprends vraiment. C'est le plus gros point faible du processus. En 4 ans, on s'est vu 3 fois. On s'est vu une fois en 2008 pour se dire coucou, comment ça va après l'examen périodique universel. Et on s'est vu 2 fois en 2012 avec un État qui était là. Alors, il y a un petit truc qui arrive en octobre, ce serait pas mal qu'on se mette un petit peu à réfléchir dessus. Bon, on n'a pas fait grand-chose ces 3 dernières années, mais là, on est un petit peu obligé, si on veut rester cohérent avec la bonne vision des bonnes pratiques que le monde audition a de notre collaboration avec la société civile, de vous recontacter et de recommencer à bosser avec vous. C'est le plus gros point faible, il est principalement dépendant du système politique fédéraliste suisse. Le problème, c'est qu'en Suisse, à l'interne, quand vous parlez avec les politiques aux différents niveaux d'autorité publique, donc au niveau fédéral, au niveau cantonal et au niveau communal et cantonal, si vous parlez de droits de l'homme, tout le monde vous répondra Berne, département fédéral des affaires étrangères. Et au niveau fédéral, quand vous parlez droits de l'homme, il y a connaissent un peu mieux le truc, ils connaissent un peu mieux la répartition des tâches publiques entre les différents niveaux d'autorité publique. Pour beaucoup de droits où on a des soucis, notamment les droits socio-économiques et culturels, c'est des prérogatives cantonales. Leur implémentation dépend de la volonté politique des différents cantons pour les mettre en œuvre. D'où un peu ce problème. C'est-à-dire que nous, on a constaté... sur plan, qu'il y a un gros problème de communication entre la Confédération, les cantons et les communes. C'est-à-dire que la Confédération fait partir l'information dans les cantons via ce qu'on appelle les conférences intercantonales, qui sont des associations de droit privé où les cantons se retrouvent pour discuter entre eux de politique cantonale, pour essayer d'harmoniser un petit peu leur politique. Mais on est à peu près persuadé, on le sait carrément, que l'information ne descend pas plus bas. C'est-à-dire que les directeurs, les conseillers d'État, les ministres cantonaux vont recevoir l'information de la part de la Confédération lors de ces rencontres intercantonales, mais on remarque bien que l'administration cantonale n'a pas accès à ces informations-là, que les politiciens cantonaux, les députés cantonaux ne sont pas conscients ou ignorent en tout cas l'importance des enjeux liés au processus de l'EPU, les recommandations, etc. Il y a un énorme travail de sensibilisation qui essaye d'être fait au niveau cantonal par la société civile, mais comme aux zombies, en Suisse, on a aussi des problèmes de financement pour pouvoir mettre en place des stratégies qui nous permettent d'avancer. Le début d'une solution qui commence gentiment à se mettre en place, mais on ne sait pas trop où ça va aller, on va en discuter en décembre, on verra bien. Bref, ce serait la mise sur pied d'une plateforme tripartite de discussion sur l'ensemble des recommandations qui aura été faites en 2012 à la Suisse par le Conseil des droits de l'homme. Une plateforme tripartite où on retrouverait les 7 départements fédéraux de la Confédération, des représentants des cantons, que ce soit les directions des conférences intercantonales ou voire des ministres des cantons qui souhaiteraient se réunir avec nous, et évidemment les ONG qui pourraient être représentées. Au niveau du travail de la coalition, nous aussi on est en train d'essayer de solidifier notre collectif, parce que pour l'instant La coalition n'a absolument aucune structure juridique autour d'elle. C'est vraiment des réunions à la base informelles, un réseau informel d'échange d'informations de plusieurs entités juridiques qui acceptent de pondre ensemble un rapport. Et là, on est en discussion pour une prochaine réunion qui aura lieu le 7 décembre à Berne, et dont j'attends des détails logistiques, pour la mise en place d'une réelle plateforme de suivi de tout ce qui touche à la Suisse et à l'ONU. Il y a actuellement quelque chose comme 5 ou 6 différentes coalitions nationales en Suisse pour différents trucs. Une coalition sur les droits économiques, sociaux et culturels, une coalition sur les droits civils et politiques, une coalition sur les droits de l'enfant, sur les droits de la femme. Il me semble que je dois en oublier une ou deux dans l'histoire, mais il n'y a absolument aucune coordination du travail de ces différentes coalitions qui travaillent toutes avec un organe spécifique à l'ONU, que ce soit un comité ou le Conseil des droits de l'homme pour notre coalition nationale des ONG pour le pays. Quelques points positifs et négatifs sur notre travail de coalition. Les points positifs concernant la collaboration qu'on peut avoir avec l'État, c'est franchement, et c'est une perception personnelle du truc, mais on a une relation avec l'État de travail qui est vraiment ouverte, constructive, avec l'administration d'État en charge de ce dossier-là. Au département fédéral des affaires étrangères, division sécurité humaine, ou division politique 4 pardon, à l'époque, ça se passe vraiment bien. On est en ligne directe avec la personne qui est en charge des droits humains et la personne qui est en charge de la rédaction du rapport d'État. On discute régulièrement ensemble et on a véritablement l'utilité de ce lien. On est écouté par l'administration et on sait que ce qu'on dit à l'administration est poussé plus loin, donc aux étages supérieurs de l'administration qui devient l'étage politique. Donc nos messages, on sait qu'ils passent plus loin. Après, le niveau politique, on fait un peu ce qu'il veut. Dans les points négatifs, et là j'ai vraiment résumé, hein, parce qu'il y en aura peut-être un peu plus, un manque de ressources, comme en zombie, finalement, un manque de ressources financières, en général, de manière générale, pour pouvoir dégager les ressources, en termes de ressources humaines, ne serait-ce que ça, nécessaires pour pouvoir faire une bonne coalition, et en termes de temps aussi. Chaque membre du groupe de pilotage fait son travail de membre du groupe de pilotage sur ses heures supplémentaires. Moi, pour 2012, je suis à peu près à 650 heures supplémentaires, je crois, dont bien les deux tiers ont été utilisés pour ce travail sur l'examen périodique universel. Donc on ressent le besoin de réussir à trouver le moyen de dégager les ressources nécessaires pour pouvoir professionnaliser beaucoup plus notre structure de coalition et permettre un meilleur suivi tant de ce qu'on fait avec le Conseil des droits de l'homme que ce qu'on fait avec le reste des comités, de manière à pouvoir avoir une vision globale de ce qui se fait à l'ONU, de ce qui se dit à l'ONU sur la Suisse. Un deuxième point négatif de notre coalition, c'est la compartimentation de celle-ci. Pour nous, il est extrêmement difficile d'avoir une vision globale de ce qui se passe en Suisse en matière de droits humains, parce qu'on manque clairement d'une approche interdisciplinaire de ces problématiques-là. C'est quelque chose qui va gentiment se régler avec le temps, notamment avec la mise en place du Centre suisse de compétences en matière de droits humains. Je ne sais pas si vous voyez ça ou pas du tout. Voilà, c'est un centre. D'accord. Alors, c'est un semblant d'institution nationale qui ne correspond pas du tout aux principes de Paris. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin bref, il y a en gros 5 instituts universitaires qui se penchent sur la question maintenant de l'implémentation des droits de l'homme depuis maintenant 2 ans et qui font régulièrement des rapports thématiques sur ce qui s'y passe et un rapport général, un overview général annuel de ces travaux thématiques qui est publié chaque année dans les trois langues de la Confédération, ce qui nous permet à nous aussi d'avoir une vision académique, certes, mais une vision quand même de ce à quoi ressemblent les droits humains chez nous. Ouais, c'est ma dernière slide, ça tombe bien. Il manque encore un mécanisme de suivi efficient, mais comme je vous l'ai dit, il y a des discussions actuellement qui me semblent relativement intéressantes et qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir avancer beaucoup mieux sur la période 2012-2016 que sur 2008-2012. Et puis, alors évidemment, mais ça je pense que c'est universel, un manque criard de volonté politique pour une meilleure implémentation des droits humains en Suisse. Si l'administration fédérale ou les différentes administrations cantonales avec lesquelles je suis amené à parler sont conscientes des nécessités, notamment de respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de droits humains, les politiques, les hommes et les femmes politiques, les partis politiques et les différents acteurs parties prenantes au système partisan, au système politique suisse, manquent cruellement de volonté politique pour une meilleure implémentation des droits de l'homme, quand ils sont conscients des nécessités que représente cette implémentation. Merci.